Voici une question dont la réponse démontrera la providence de Dieu. Est-ce que Dieu nous fait toujours justice de nos adversaires? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse bien encourageante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Ça me fait tellement de bien de recevoir tout ce bon enseignement dans le livre des psaumes, pas vous? Voici les questions qu'on va poser à Dieu aujourd'hui. De quelle manière est-ce qu'on doit prier? Pouvons-nous promettre quelque chose à Dieu? Quand on a besoin du secours de Dieu, pouvons-nous aussi compter sur des rituels religieux? Comment est-ce que les gens paralysent l'œuvre de Dieu? Comment est-ce qu'une église doit réagir quand il y a des conflits? Avons-nous raison de craindre nos adversaires? Est-ce que Dieu fait toujours justice de nos adversaires? Notre âme peut-elle avoir soif de Dieu? Comment pouvons-nous démontrer notre confiance en Dieu dans les épreuves? Restez là, le pasteur Régent Joly a les réponses à nos questions et elles proviennent toutes de ce livre merveilleux, les psaumes. Mais premièrement, prions. Oh, merci Seigneur pour toutes les belles choses que tu nous enseignes à travers les psaumes. Enseigne-nous aujourd'hui, parle à nos cœurs, fais pénétrer ta parole profondément en nous, aide-nous à la retenir, à la mettre en pratique chaque jour pour que tu sois glorifié dans nos vies. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, les psaumes 61 à 68 forment une série de psaumes qui sont le cri d'un croyant vers son Dieu, en qui il a entièrement confiance. Ces prières de David annoncent celles que fera Jésus sur terre. De plus, nous trouvons un grand encouragement pour nous-mêmes dans ces psaumes. Chers amis, débutons notre lecture, le psaume 61, verset 1er, au chef des chantres, sur instrument à cordes de David. Vos prières sont-elles des cris du cœur? L'instrument à cordes convient bien pour accompagner cette prière qui provient du cœur de David. Cet élément rend cette prière très différente des prières stéréotypées que l'on entend souvent dans nos églises. Souvent, nous ne faisons que présenter une liste d'épiceries au Seigneur. Nous ne lui présentons qu'une liste de ce que nous désirons. Nous prenons Dieu pour un Père Noël ou un génie dans une bouteille. Un génie qui est à notre service. Un génie qui peut combler tous nos désirs. Je crois qu'il est bien de planifier d'organiser une prière publique, mais il est encore plus important qu'elle vienne du cœur. Les prières de David étaient des cris du cœur, ce que l'on n'entend pas aussi souvent que l'on le devrait aujourd'hui. Poursuivons notre lecture. 2 et 3. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. David était conscient du fait que Dieu est beaucoup plus élevé que lui. Dieu désire se rapprocher de Dieu. Il arrive que certains groupes aient un concept inadéquat de la grandeur du Seigneur. Il le prie comme s'il était un simple homme, un copain. Mais nous avons besoin d'un rocher beaucoup plus élevé que nous. Dieu lui-même nous élève jusqu'à ce rocher qui est Jésus-Christ. Verset 4. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Dans la tempête, nous trouvons un refuge auprès de notre Dieu. Il est une tour forte qui nous protège de l'ennemi. Verset 5. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Pause. Nous avons encore l'image d'une poule qui protège ses poussins sous ses ailes. Jésus a utilisé cette image en pleurant sur Jérusalem. dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 37. Revenons au psaume 61, lisons le verset 6. « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Pourquoi ne promettriez-vous pas quelque chose à Dieu? David a fait des vœux. Il a promis quelque chose à Dieu. Nous demandons des choses à Dieu, mais lui en promettons-nous? Nous allons continuellement envers Dieu avec toutes sortes de requêtes. Pourquoi ne lui promettriez-vous pas quelque chose? Dieu l'a fait et Dieu a exaucé ses vœux. Versets 7 et 8. Ajoute des jours aux jours du roi. Que ses années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Oui, chers amis, David fait encore appel à la miséricorde de Dieu. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous nous rendons compte que nous en avons besoin. Nous percevons aussi que nous ne pouvons pas abaisser Dieu à notre niveau. Il est élevé. Et comme le prophète Ésaïe, qui a vu le Seigneur sur son trône, nous nous rendons compte que nous sommes des êtres souillés par le péché et que nous avons besoin de sa miséricorde. Verset 9. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Faites vos vœux à Dieu et rapprochez-vous de lui. Louez-le et il vous aidera à respecter vos vœux. Le psaume 62, versets 1 et 2. Au chef des chantres, d'après Jéduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Le psaume 62 est un exemple d'une foi simple en Dieu, d'une foi qui ressemble à celle d'un enfant envers ses parents. L'occasion de ce psaume pourrait être la fuite de David devant son fils Absalom, qui a tenté d'usurper le trône. Malgré la défaite apparente, David a confiance en Dieu. Il perçoit son épreuve comme étant un test de sa foi. Verset 3. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Chers amis, placez-vous votre confiance uniquement en Dieu? Vous confiez-vous uniquement en Dieu, ou comptez-vous sur des rituels religieux ou sur des œuvres? C'est Dieu qui était le salut de David, non sa religion ou ses pratiques ou ses rituels. Versets 4 et 5. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Pause. Chers amis, paralysez-vous l'œuvre de Dieu ou contribuez-vous à la faire avancer? Il arrive souvent dans les églises que des personnes désirant la première place travaillent pour faire renvoyer un pasteur. D'autres le font parce qu'elles ne veulent pas confronter un péché dans leur vie. Parfois, Satan suscite des personnes afin de paralyser les efforts d'évangélisation. J'ai déjà connu un homme qui s'opposait à tout nouveau projet d'évangélisation dans son église. Un autre, qui était au conseil, faisait remettre toutes les décisions à plus tard. Paralysez-vous l'œuvre de Dieu ou contribuez-vous à la faire avancer? Versets 6 et 7. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Si vous vous opposez à l'œuvre de Dieu, soyez assurés que vos actions se rendent aux oreilles de Dieu. En effet, les serviteurs de Dieu se confient en lui. Versets 8 et 9. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge, sont en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Pause. En cas de conflit, prenez vos responsabilités sans entrer en guerre contre quiconque. plutôt que de partir en guerre et laisser une situation difficile se transformer en conflit de personnalité, une Église devrait se confier en Dieu. En cas de conflit, appuyez les serviteurs de Dieu qui ont à cœur l'avancement de son royaume. Prenez votre responsabilité en votant aux réunions d'affaires, mais ne partez pas en guerre contre quiconque. Laissez à Dieu le soin de protéger et de défendre son Église. Priez pour celle-ci et comptez sur Dieu pour régler la situation. Versets 10 et 11. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Ceux qui s'opposent à Dieu et à son œuvre ne sont pas plus puissants qu'un léger souffle. C'est en Dieu qu'il faut mettre son espoir, non dans les richesses incertaines. Verset 12. Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Oui, chers amis, c'est Dieu qu'il faut craindre, et non ses adversaires. Lorsque Dieu parle, c'est selon la vérité. Ce qu'il dit est vrai et s'accomplit. Dieu ne change pas, ni sa vérité. Lorsqu'il répète une chose, c'est par bonté envers nous. Ce que Dieu enseigne, au moyen des Saintes Écritures, il le confirme par sa providence et par son gouvernement de la terre. Dieu est puissant, et ses serviteurs le découvrent. Il est bon d'être conscient de la puissance de Dieu lorsque nous les servons et rencontrons des épreuves. Lisons ensemble l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Oui, chers amis, la parole de Dieu nous encourage à craindre Dieu, à respecter sa parole, qu'est la vérité. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, il lui dit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » L'Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 11. Si Dieu permet que nous ayons une épreuve, c'est pour l'avancement de son royaume. C'est pour notre bien et celui de son Église. C'est Dieu qu'il faut craindre et non ses adversaires. Verset 13. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Dieu est miséricordieux et il nous fera justice. Il est aussi important de percevoir la bonté et la miséricorde de Dieu que sa puissance. Comment irons-nous au trône de la grâce afin de puiser dans la puissance divine si nous ne croyons pas que Dieu soit bon et miséricordieux pour nous recevoir et entendre nos prières? C'est lui qui nous ouvre l'accès. Peut-être pensons-nous avoir été traités injustement, mais une fois en présence de Dieu, nous ne douterons plus de sa justice. Chacun recevra selon ses œuvres. Dieu n'attend pas toujours dans l'au-delà pour récompenser ou punir quelqu'un pour ses œuvres. Mais justice sera rendue à tous un jour. Toutes nos œuvres sont inscrites dans les registres de Dieu et nous recevrons ce qui est dû pour chacune d'elles. Voici maintenant le psaume 63, un psaume très spécial. C'est un onguent étendu sur nos plaies, un bandage pour nos blessures. Ce psaume est un encouragement pour l'Église. Il parle d'avoir soif de Dieu, de désirer l'eau vive qu'est le Seigneur. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 63, versets 1 à 3. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Votre âme a-t-il soif de Dieu? Seule la foi peut parler et prier ainsi. Dieu est éternel. Il transcende les pensées humaines. Il est le Créateur, le Rédempteur et mon Père. C'est lui que David cherchait. David a séjourné dans des lieux parmi les plus arides au monde. Il savait ce qu'était la soif. Cher ami, votre âme a-t-il soif de Dieu? Aimes-tu Dieu? Ou est-il un fardeau pour toi? Écoute ce texte de l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et que dire de ce texte de Jean chapitre 4, à partir du verset 10? Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » Allez à Jésus. Lui seul peut rassasier une âme, la désaltérer et lui donner tout ce dont elle a besoin afin de pouvoir être en communion avec Dieu. Revenons au psaume 63, lisons cette fois les versets 5 et 6. « Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » David préfère une relation intime avec Dieu à un banquet ou un repas de gourmet. Versets 7 et 8. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. David aimait Dieu, et il pensait à lui jour et nuit. Pensez à Dieu lorsque nous ne pouvons dormir est plus efficace que de compter des moutons. Verset 9. « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Pouvez-vous dire cela à Dieu en toute sincérité? Passons maintenant au psaume 64. Nous ne pouvons pas dire exactement quel événement historique de la vie de David fut l'occasion du psaume 64, mais il est un encouragement pour nous. Débutons la lecture. Le psaume 64, versets 1 et 2. « Au chef des chantres, psaume de David, ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. » Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Dieu est-il votre refuge? Encore une fois, David crie à Dieu pour avoir sa protection. David a peur, mais il se réfugie en Dieu. David a souvent fait ce genre de prière. C'était son seul refuge. David termine le psaume en déclarant qu'il a confiance en Dieu. Le psaume 64, versets 8 à 11. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Dieu est aussi notre seul espoir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas compter sur les gouvernements et les politiciens, ni sur la science et l'éducation. Nous ferions mieux de suivre l'exemple de David en nous confiant en Dieu. Le psaume 65 parle du jour où Dieu rétablira toutes choses. Versets 1 et 2. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. David parle du véritable mont Sion. Le peuple de Dieu aura sujet de le louer abondamment. Verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Le peuple que Dieu a racheté exprimera son bonheur. Versets 10 à 14. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Nous avons ici une belle image du millénium, du royaume de Dieu, du règne de Jésus-Christ, 1000 ans de paix sur cette terre. Maintenant, passons au psaume 66. Ce psaume est un psaume d'adoration et de louange, mais nous ignorons qui est l'auteur. Lisons les 8 premiers versets. Au chef des chantres, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Pause. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Pause. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Oui, chers amis, les Israélites, tout comme les Juifs lors du millénium, auront plusieurs occasions de le faire, de célébrer leur grand Dieu. Mais nous, pendant ce temps de la grâce, en tant que chrétiens et membres du corps de Christ, de son Église, nous sommes exhortés aussi à louer notre grand Dieu. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Dans ce texte du Nouveau Testament, de cette lettre de Paul adressée aux Éphésiens, nous retrouvons tous les éléments du peuple de Dieu. La crainte, le respect, d'honorer notre grand Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait, et par le fait même de s'en réjouir. Oui, le peuple de Dieu est un peuple dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dit Paul dans l'Épître aux Philippiens. Ami chrétien, Jésus-Christ est-il la source de ta joie? Est-ce que tu peux vraiment te réjouir dans son œuvre? Toi, cher ami, est-ce que Jésus-Christ est vraiment le centre de ta vie? L'as-tu reçu comme ton sauveur personnel? Est-il le Seigneur de ton existence? Afin de pouvoir te réjouir avec tous les autres enfants de Dieu, les autres disciples de Christ, la source de la véritable joie est la personne de Dieu, la personne de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Un cœur débordant de reconnaissance, un cœur vivant dans la présence de Dieu. Dieu te l'offre, à toi maintenant de le recevoir. Chers amis, préparons-nous pour les prochaines émissions, en lisant les psaumes 67 et 68.
Merci beaucoup, Régent. Une des choses que j'ai retenues aujourd'hui, c'est qu'il faut craindre Dieu et non nos adversaires. Tu as cité l'Évangile de Jean au chapitre 19, verset 11, et ce verset m'est très cher, mes amis, parce que je l'ai vécu au cours de mes premières années en tant qu'enfant de Dieu. Dans cette période-là, j'enseignais l'anglais aux employés d'une compagnie multinationale. Puis un jour, l'un des grands patrons de cette compagnie, qui faisait partie d'une secte, est venu frapper à ma porte pour me présenter leur doctrine et tenter de me convaincre d'adhérer à cette secte. Sur le coup, quand je l'ai vu, j'ai senti une alarme au-dedans de moi et j'ai eu peur un petit peu de sa réaction au moment où je lui dirais que j'étais une chrétienne évangélique et que ce qu'il me présentait était contraire aux Saintes Écritures. Mais c'est alors que le verset dans Jean 19, 11 m'est venu à l'esprit pour me réconforter et me donner de l'assurance. C'est Jésus qui parle à Pilate et qui dit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Alors j'ai vite réalisé que si Dieu permettait cette épreuve, c'était pour l'avancement de son royaume, c'était pour mon bien, et je n'ai pas craint mon adversaire. En plus, tout s'est bien passé et cet homme n'a pas insisté pour me vendre sa salade. C'est merveilleux de vivre la parole de Dieu. Depuis que je suis sauvé, depuis 1977, je lis la parole de Dieu chaque jour, et Dieu m'enseigne de belles choses. Mais quand je vis ces choses, c'est encore plus merveilleux. Je peux voir Dieu à l'œuvre dans ma vie et dans la vie de tous mes êtres chers, même ceux qui refusent l'Évangile de Jésus-Christ. Et pour ces personnes, je prie et je regarde ce que Dieu fait dans leur vie pour les attirer à Lui. Présentement, il fait une grande œuvre dans leur vie, même s'ils ne le savent pas. Ils vivent de grosses épreuves et ils savent que je suis toujours là pour les écouter, les encourager, et je suis convaincu qu'un jour ils me diront « Caro, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, pour avoir l'assurance de la vie éternelle? » Et toi, mon ami, toi qui m'entends en ce moment et qui ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, écoute ce que Dieu veut te dire présentement. C'est la même chose qu'il m'a dite en 1977 et c'est la même chose qu'il a dite aux gens du temps des apôtres. Par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 16, versets 30 et 31, un homme a dit à Paul et Silas, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul et Silas lui ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mon ami, crois-tu au Seigneur Jésus? Je ne parle pas juste de son existence, mais crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu fait homme? Crois-tu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin qu'en croyant en lui, on ne périsse pas dans les flammes éternelles, mais qu'on ait la vie éternelle? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Place ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés. Il a tout payé à la croix. Il a pris ta condamnation sur lui. Il a pris tous tes péchés, mais il ne te forcera pas à recevoir son pardon. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Comme il est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mon ami, ne te prive plus de la gloire de Dieu. Demande-lui pardon pour tes péchés. Confesse-lui que tu es incapable de te sauver toi-même et demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Ses bras sont grands ouverts pour te la donner et tu vas vivre éternellement avec lui.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.